Cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, le 18 mai 2001 à Saint-Jodard.
Par rapport au cours d'hier, le second moment du jugement de sagesse, c'est la distinction entre l'être et le devenir. C'est sûrement au point de vue génétique le premier obstacle pour nous, la première difficulté pour nous, c'est le dépassement du devenir. On est en connaturalité constante avec le devenir. Parce que autour de nous, le milieu dans lequel nous trouvons, c'est un milieu qui change tout le temps. On en fait la petite expérience facile quand on retourne par exemple le lieu où l'on est né, où on a passé sa jeunesse. Faites ça au bout de 20 ans, un pèlerinage personnel. Mais la première impression, c'est que tout est changé. Très souvent, c'est comme ça, presque toujours, surtout quand il y a eu des guerres. Ou bien, on a l'impression que rien n'est changé. Mais on s'étonne et on regarde un peu plus profondément et on s'aperçoit que ce n'est plus ça du tout. D'abord, on s'était imaginé très fort, et notre imagination avait changé beaucoup cela. Le milieu relativement restreint était bien plus grand par l'imagination. L'imagination a cette faculté très étonnante de vivre dans le devenir. L'imagination, c'est un devenir constant. On est à l'aise dans l'imagination. L'imagination ne saisit pas l'être. Vous n'avez aucune image de l'être. Cherchez. Et représentez l'être. Le devenir, je vous le disais hier, le devenir qui monte, le devenir au plateau, le devenir qui dégringole. Et c'est notre imagination, ça. Quand nous grandissons, enfin avec nous, le monde sera intelligent. C'est ce qu'on se dit tous. Ils étaient bien bêtes avant. Tandis que grâce à nous, ça va changer. Alors, l'évolution, quand on a l'âge mûr, on gère son bien, le haut plateau. Et puis quand on vieillit, oh, ça dégringole. Ça, c'est l'imagination. L'imagination s'empare dans le devenir. Je ne dirais même pas que l'imagination s'empare du devenir. L'imagination, c'est le devenir. Vous êtes à l'aise dans l'imagination. Et dans le devenir, vous êtes chez vous. C'est extraordinaire comme le devenir est puissant dans ce contexte dans lequel nous sommes. Quand on réfléchit, on s'aperçoit que l'homme est l'animal qui progresse, qui change le plus. Il n'y a pas un animal qui change autant que l'homme. La courbe d'âge, de développement de l'homme est merveilleuse comparativement à la courbe de changement d'un animal. L'homme change merveilleusement et à la fois en grandissant, à la fois en se maintenant et à la fois la décrépitude. C'est très curieux. Alors, c'est pour ça que le devenir nous est si connaturel. Et par l'imagination, nous lui donnons une valeur très particulière d'immanence. Alors c'est la question qui est posée. Vous avez fait la distinction être et vie, puis être et devenir. Quelle est la distinction devenir et vie ? Je ne fais pas la distinction devenir et vie. Je fais la distinction être et devenir, hein, exprès. Nous allons comprendre. C'est facile dans la nature et le vivant, mais dans l'homme, il n'est pas facile de toujours bien distinguer ce qui est du devenir et le devenir et la vie, ou la vie. C'est très vrai. Le devenir de l'imagination. C'est l'imagination. L'imagination est toujours dans le devenir. Et c'est ce qui fait, parce que notre imagination, c'est notre milieu de vie le plus naturel. Notre intelligence naît à partir des fantasmes, donc des images. Notre affectivité est à l'aise dans l'imagination. Et l'imagination fait grandir notre affectivité, notre amour. Et on quitte l'imaginaire quand on entre dans un amour vrai, spirituel. L'amour spirituel est au-delà du venir. L'intelligence est au-delà du venir. Mais nous mettons beaucoup de temps avant de dépasser le devenir. Alors, c'est vrai, notre vie se réalise dans le devenir à cause de notre corps. Notre corps est dans le devenir. Son existence et sa vie s'accomplissent dans le devenir. L'intelligence est au-delà du devenir. La vie intellectuelle la vie spirituelle, la vie surnaturelle, c'est l'éternité. À Dieu devenir, c'est l'ascension, hein, la Dieu au devenir. On passe du monde du devenir à le monde, au monde éternel. Alors, toujours une petite larme de quitter le devenir. Il nous est tellement que naturel. On devrait être dans la joie de passer du devenir à l'être. Passer de la vie changeante tout le temps à une vie éternelle. C'est très important de voir que notre vie biologique, elle est dans le devenir, entièrement dans le devenir. Notre vie imaginative, elle est entièrement dans le devenir. Notre vie spirituelle et notre vie surnaturelle, au-delà. Mais très facilement, vous concevez le devenir, vous concevez le surnaturel comme un devenir. Vous concevez votre vie intellectuelle dans le devenir. Vous avez de la peine à dépasser ce devenir. Intellectuellement, puisque c'est toujours par l'intelligence qu'on voit le mieux les choses, que représente l'induction ? Le passage du devenir à l'être, à ce qui est premier. Il n'y a pas de premier dans le devenir. C'est la démocratie parfaite. Il n'y a pas de premier dans le devenir. Il faut passer du devenir à l'être. Vous passez de l'expérience à la saisie des principes. Et le principe, vous le saisissez que dans l'être. Il n'y a pas de principe dans le devenir. Vous voyez, toute induction est une ascension. Passer d'un monde très connu, l'expérience, où vous êtes tout à fait à l'aise, à un monde qui ne change pas. Et les Grecs, quand ils passaient du corruptible au divin, c'était le passage du devenir à l'être. Tout ce qui était au-delà du corruptible, était le divin. Le mot même, le divin, pour nous, on fait une distinction entre le divin spirituel et le divin surnaturel. C'est vrai, distinction qu'on fait. Mais pour le grec, et c'est très curieux, et c'est très intéressant de voir ça. Tout le monde corruptible, donc le monde du devenir, c'est le monde terrestre. Et quand vous atteignez quelque chose d'incorruptible, c'était le divin. Alors, intellectuellement, nous voyons bien dans notre vie intellectuelle, si nous réfléchissons, nous voyons bien que très souvent, la plupart du temps, ut in pluribus, comme dirait saint Thomas, et l'expression ut in pluribus est grecque, hein, c'est polakis. La plupart du temps, l'homme demeure dans le devenir. L'homme est plongé dans le devenir. Le passé, le présent, le futur. Et le passé prend une importance énorme. Il devient presque une régulation du devenir. Ah, c'est faux, hein. Parce que si vous retournez vers le passé, vous changez un statut seul. Rien ne change. Mais rien ne change dans le devenir. C'est pas la saisie d'un principe. Il n'y a pas de principe dans le devenir. Mais il y a le poids du passé. Le passé a cet immense avantage, et c'est pour ça qu'on est tellement à l'aise dans le passé, c'est qu'on n'avait plus le principe d'existence. Il n'y a pas de présent dans le passé. Le passé est un monde sans présent. Alors, vous n'atteignez l'être que dans le présent. Vous n'atteignez jamais l'être dans le passé. Alors c'est l'imagination. C'est l'imagination. L'imagination est à l'aise dans le passé. C'est le monde de l'interprétation. Vous interprétez tout. Et vous pouvez interpréter puisque personne ne peut plus dire ceci est. Plus personne. C'est le passé. Alors l'imagination joue énormément. Et si on a découvert l'être dans le présent, je ne saisis l'être que dans le présent. Tout de suite, quand vous regardez ce que vous avez fait déjà depuis votre lever maintenant, vous ne pouvez plus avoir le jugement d'existence. Le jugement d'existence, il vous est donné maintenant. Et si vous réfléchissez à ce que vous êtes maintenant, vous saisissez votre être. En comprenant que vous avez le passé et que vous avez le futur. Oui, je vous disais cette parole d'Aristote qui est toujours très très frappante, que l'art est plus proche de la métaphysique que l'histoire. L'histoire, c'est le passé. L'artiste, c'est le futur. Ce qui doit venir. Un artiste est toujours un peu en avance. Un historien est toujours un peu en retard. Il n'y a que le présent qui saisit l'être. C'est extrêmement intéressant, ça, à voir ça. Une civilisation qui a un très grand poids vit dans le passé. Vous voyez, c'est ce que Malraux appelle le musée. Le musée vous fait vivre du passé. Et c'est très intéressant, le musée, puisque vous avez toutes les œuvres d'art qui sont passées, mais ça vous fait vivre dans le passé. Notre civilisation est une situation de musée. Une jeune civilisation n'a pas de musée. Elle existe. Vous voyez, prenez un vieux ménage et un jeune ménage. Le vieux ménage a toutes les photographies anciennes. C'est extraordinaire de voir ça. Quand vous voyez un foyer de vieilles gens, et que vous entrez un peu dans l'intimité. Alors vous voyez toutes les photographies. C'est le passé. Vous voyez un jeune ménage. Il y a la photo des mariés, mais il n'y en a pas d'autres. Et du premier enfant, du petit. Ce sont toutes ces petites remarques très simples qui vous font comprendre que le devenir prend une place énorme dans notre vie. Énorme. C'est le milieu ambiant, la psychologie est dans le devenir du passé. Et vous essayez de remonter au point particulier qui, soi-disant, est source. Mais vous n'en savez rien. Vous n'avez pas de certitude. Vous interprétez l'herméneutique. La philosophie de l'herméneutique est la philosophie du passé. Vous n'avez que les documents. Et quels sont vos documents dans votre corps, hein, les documents du passé, de votre première jeunesse, où est-ce qu'ils sont ces documents? Vous les portez en vous, forcément, il n'y a pas d'autres documents. Vous les portez en vous. Et est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce que je peux retrouver le présent dans le passé? Posez-vous la question, parce que c'est important. La distinction entre le devenir et l'être, c'est ça. L'être présent. Je ne saisis l'être que dans le présent. Je ne saisis l'être que dans le présent et dans l'éternité. L'éternité a cet immense avantage, c'est qu'il n'y aura plus d'historien, il n'y aura plus que Dieu. Qui n'est pas un historien. Ici sur Terre, nous avons beaucoup de peine à vivre de l'instant présent, c'est-à-dire à découvrir l'être. Dès que vous découvrez l'être, vous montrez que tout le passé, tout le devenir, est pour l'être. Mais l'être dépasse le devenir. L'être donne au devenir son sens. Ah. Alors là, c'est très curieux à voir. Est-ce que seul l'être donne la signification ? Le devenir n'a sa signification que par l'être. Les principes de l'être expliquent tout. Mais est-ce que le devenir a en lui-même sa signification? Non. Le devenir réclame l'herméneutique. Alors, si c'est vrai, ça, vous voyez, on touche à un problème très actuel. Ce livre du père Geffray, en disant, nous sommes à l'âge herméneutique. De dire ça, ça veut dire, nous sommes à l'âge où le passé est tout. Le passé est sagesse. Il est tout. L'herméneutique, c'est donner une explication. Donc, la signification du passé est double. La signification du passé est où l'instant présent, c'est l'être. Où mon intelligence artistique qui interprète. Le passé est une matière merveilleuse pour l'homme pour faire jouer son art. Il reconstruit le passé. Et un historien est particulièrement intéressant quand il faut faire revivre le Moyen-Âge, revivre un siècle particulier, revivre, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art avec lequel vous pouvez reconstruire les documents. Les documents sont toujours un témoignage. Le document est un témoignage passé, un témoignage mort. Et le document n'a pas de vie en lui-même. C'est vous qui donnez la vie au document en l'interprétant. Vous donnez par l'herméneutique la signification. C'est pour ça que l'herméneutique est si séduisante, parce qu'elle remplace l'être. Le passé n'a de signification que par l'être actuel. Les 2000 ans de l'Église n'ont de signification que dans la réalité actuelle. Et c'est vrai. Mes ancêtres vivent grâce à moi. Hein ? Je suis le dernier jeton. Tous mes ancêtres vivent grâce à moi et ils ont vécu pour moi. J'ai cet immense avantage de finaliser tous ces ancêtres. Ils ne le savaient pas, hein, qu'ils vivaient pour moi. Non, ils ne le savaient pas. Alors, vous voyez bien que dire ça, c'est très gros. Est-ce que c'est vrai ? C'est herméneutiquement vrai. Et c'est ça qui est de terrible dans l'herméneutique. C'est que je cache la vérité et je me fais finaliser tous mes ancêtres. Ils ont un sens. Ils ne sont pas vains grâce à moi. Je leur donne un sens par l'herméneutique. Alors qu'en réalité, je finalise comment ? Biologiquement. Pas plus que ça. Je finalise ce qui a en eux uniquement de devenir. Mais il n'y a pas de fin dans le devenir. Il y a un terme. En grec, il y a deux mots qui expriment la fin. Le mot « péras », terme. Le mot « Télos, fin. En français, c'est très curieux. En français, la fin qui est le terme et la fin qui finalise, c'est la même fin. C'est fin. Alors, comment finalisez-vous vos ancêtres ? Vous les finalisez parce que biologiquement, vous êtes leur terme. Et c'est vrai, biologiquement, vous vivez grâce à eux. Quoi. Si vous n'avez pas été là, vous, où est-ce que vous serez? Alors, biologiquement, vous les terminez, mais vous n'êtes pas la finalité de... Puisque la finalité est personnelle, elle n'est pas biologique, elle est personnelle. Et je ne finalise pas le Moyen-Âge. Non ? Au point de vue artistique, c'est déjà vrai. La cathédrale d'Évry ne finalise pas Chartres. Hein, je crois que ça, c'est très clair. Hein. On voit tout de suite. Et biologiquement, les habitants du temps de la cathédrale. Et les habitants de la cathédrale d'Évry finalisent, sont la fin. Mais pas du tout fin dans le sens finalité, dans le sens terme. Vous voyez, il y a là quelque chose de très important à saisir. Il n'y a pas de fin dans le devenir. Il y a des termes, des arrêts. La finalité n'est que dans votre saisie de l'être. Parce que le bien est convertible avec l'être. Vous ne dites pas que le bien est convertible avec le devenir. Non. Le bien est convertible avec l'être. Et la finalité, c'est le bien absolu, l'être. C'est très important pour nous, la distinction être et devenir. Parce que si le devenir l'emporte sur l'être, et ça arrive souvent, ça, dans votre vie, si vous êtes quantitatif, à la fin de la journée, comptez combien de fois votre intelligence a atteint l'être et combien de fois vous vous êtes laissé manœuvrer par le devenir, manipulé sans le savoir. Le devenir vous manipule. Bon, il faut bien que je sois un citoyen juste au début du troisième ère, du millénaire. Il faut bien. Mon habit n'est pas le même que celui du Moyen-Âge. Ma démarche, mon langage n'est pas le même. On se laisse très facilement manipuler par le devenir, considérant que la mode est un absolu, ça détermine tout. Alors que la finalité n'est pas dans devenir, elle est dans l'être. Vous voyez, ce second jugement de sagesse est terriblement important parce qu'il montre que si je reste dans le devenir, il n'y a pas de finalité. Il y a des termes. Il y a un moment où le devenir a été particulièrement important. On voit ça dans les constructions des villes. La période où cette ville était très riche. Alors toutes les maisons sont construites à cette époque-là. La période où, au contraire, le devenir était très maigre, famine. L'économie est purement dans le devenir. Et elle permet la richesse. La richesse fait grossir le devenir. Et ce devenir devient du luxe et prend tout et efface l'être. Tandis que la pauvreté, ah, je ne cherche pas de finalité dans la pauvreté. Et donc je suis obligé de sortir de ma pauvreté matérielle pour trouver le bien, l'être. Donc, au point de vue philosophique, cette distinction de l'être et du devenir prend, lorsque je la vois bien, à partir du jugement sagesse, c'est-à-dire à partir de l'éternité, du Dieu éternel, infiniment simple, infiniment bon. Je vois que cette distinction de l'être et du devenir est absolument essentielle pour que je découvre où est mon bonheur, où est mon repos, où est ma fin, telos, ce qui me finalise, ce qui peut attirer toute ma vie. Alors que constamment, je reste esclave du devenir. Et mes déterminations se font à partir du devenir, de celui qui crée le plus fort. Parce que celui qui crée, c'est le devenir. Forcément. Et les déterminations se prennent à partir du devenir. Je confonds péras, le terme, et la fin. Et ceci est très subtil dans l'histoire humaine. C'est pas étonnant. Je vous ai dit au début, notre vie biologique est dans le devenir. C'est sûr. Vous avez eu un commencement et vous allez tous avoir une fin. C'est sûr. Vous êtes tous nés à tel moment, à tel endroit, et vous mourrez tous à tel endroit, à telle fin. C'est votre devenir biologique. Et votre devenir biologique, il est très encombrant. Il est très lourd à porter. Quand vous êtes jeune, vous regardez ça allègrement. Quand vous êtes plus âgé, vous voyez bien que ce devenir biologique est très lourd. C'est vrai. Alors, ou on en sort très vite, ou on en reste esclave. Le devenir biologique, quand il devient très lourd, le vieillissement, alors, fait que je ne peux pas le considérer comme ma fin. Sauf dans l'existentialisme, à un moment donné, on a considéré la mort comme étant pas seulement le terme, mais la fin de l'homme. Tout homme est ordonné à la fin, à mort. Donc c'est sa fin. Je finalise ma vie par la mort. Non, la mort est un terme, pas une fin. C'est un terme. Et parce que c'est un terme, je peux lui donner diverses significations. Et la première signification, c'est de donner à la mort la signification d'être ce qui termine ma fin. ce qui termine ma vie. Ou au contraire, je peux donner à la mort cette signification qui est un passage d'une vie d'épreuve à une autre vie, une vie éternelle. Je peux donner à ma mort encore une autre signification. Je peux me servir de ma mort comme la possibilité de faire une offrande la plus riche qui soit de tout moi-même. Jésus est mort comme victime, comme agneau, en offrant sa mort. Alors la mort n'est pas seulement un passage, la mort devient un moment très important où le terme rejoint la fin. Péras rejoint Télos. La justice et la miséricorde se sont embrassées. C'est assez extraordinaire de voir ça. La justice, la mort, hein, tout homme, depuis le... Si je suis chrétien, je dis tout homme doit mourir, conséquence du péché originel que je porte en moi. Je dois mourir. Et en même temps, la suprême miséricorde, Dieu m'accueille dans son royaume. La justice et la miséricorde se sont embrassées. Voyez, c'est très important de comprendre que mon intelligence humaine est faite pour l'être et non pas pour le devenir. Mais mon conditionnement humain est totalement enfermé dans le devenir. Conditionnement extérieur, conditionnement interne. Mon corps est substantiellement mon conditionnement. Et donc, il est capital pour moi de faire la distinction de être et de devenir, de la faire tout le temps. Dans ma vie actuelle, c'est dans la lumière de Dieu, dans la lumière de sagesse, dans tout mon travail philosophique, théologique, je fais la distinction entre ce que je découvre maintenant et sa finalité, ce qu'il y a d'éternel, au-delà de ce que je découvre. C'est donc une distinction qui, après celle du vivant et de l'être, qui est pour moi extrêmement importante. Parce que ne m'ennoblit que l'être qui me donne ma fin, ma finalité. Il n'y a que cela qui m'ennoblit. Tout le reste me conditionne, mais ne m'ennoblit pas. Ça me conditionne, je le respecte, je vois son intérêt. Et au point de vue intérêt, ça peut être très grand, mais ma fin, ce qui me finalise, n'est que du côté de l'être. Si je me laisse prendre au jeu du poids du conditionnement, du poids du devenir, je perds du temps. Et ma vie est vaine, parce qu'il n'y a pas de finalité. Oui, c'est donc très, très important, cette distinction. Elle est capitale. Et je vois, en même temps, que si facilement, je peux le dire, ut in pluribus, la plupart des hommes qui m'environnent, mon milieu religieux est un milieu exceptionnel. Je ne dirais pas que ut in pluribus parmi les novices, parmi les prophètes, il demeure dans le devenir et n'ont pas saisi l'être. Mais en dehors de la vie religieuse, est-ce qu'on pourrait dire que la vie religieuse est faite dans un jugement de sagesse pour maintenir toujours la distinction du devenir et l'être? D'une certaine façon, un religieux ne vieillit pas. Il est toujours mon frère. Il ne vieillit pas. L'âge est très secondaire au noviciat. Très secondaire. On s'en aperçoit au moment de la profession, parce que la profession, c'est atteindre l'être. Alors, si vous ne l'avez pas atteint intellectuellement, vous l'atteignez dans votre vie. C'est pour ça que pour un psychologue, c'est si difficile de comprendre ce que c'est que la profession. Parce que la profession va contre le primat du conditionnement. Je me décide non pas en fonction de mon conditionnement, mais je me décide en fonction de ma fin. C'est sûr. Si je me décidais en fonction de mon conditionnement, ce serait un orgueil fou. Oh, moi, je peux faire profession, mais à côté, le petit copain, oh non, 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 impossible. Et c'est ce qu'on voit de temps en temps dans les réflexions par rapport à savoir s'il est apte ou pas apte. C'est très curieux d'assister à ça avec la distinction de l'être et le devenir. On voit que toutes les raisons qu'on donne sont du devenir et ne sont pas de l'être. Et le seul empêchement viendrait de l'être et pas du devenir. Puisque la profession dépasse le devenir. Vous le faites en fonction de la finalité. C'est votre finalité qui prend le dessus. Et vous y croyez, et alors vous pouvez faire profession. S'il n'y avait pas de finalité, ce serait de la stupidité de faire profession. Ça joue tout le temps, c'est ça, la distinction de l'être et de venir. Puisqu'on ne va pas si loin, on reste dans le devenir. Et dans le devenir, La seule chose intelligible du devenir, c'est le point de départ et le terme. Un devenir se définit par son point de départ et son terme. Je pars de Paris, je vais à Marseille. Vous voyez ça ? Ah, ce devenir-là est très intelligible. Mais si je ne sais pas d'où je pars, d'où partez-vous ? Ah, oh, je ne sais pas. Où allez-vous ? Ah, oh, je ne sais pas. Et la plupart des hommes sont comme ça aujourd'hui. Ils ne savent pas d'où ils partent et ils vont. Alors, le devenir n'est intelligible que par le terminus à quoi ? Terminus à quoi, non ? le point de départ et le terme, et le sujet. C'est l'homme qui fait ce parcours. L'homme conditionné. Le sujet, c'est un homme entièrement conditionné. C'est tel homme particulier, qui a tel âge, qui a telle culture, qui est de tel pays, et voilà. C'est ça le sujet. C'est l'individu, si vous voulez. C'est l'individu dans son individualité tout à fait caractéristique. C'est pas le sujet métaphysique, la substance. Celle-là ne meut pas. Elle est intelligible par elle-même. Par elle-même, katoto. C'est le privilège de la substance. Tandis que le sujet n'est pas intelligible par lui-même. Il est intelligible par tout ce qu'il porte. Un agglomérat. Vous voyez, un cap de visite. On veut mettre votre signal particulier. Il a des yeux de telle couleur, il a un nez particulier, il a l'âge, il est né à tel endroit. On ne peut pas mettre, il mourra à tel endroit. Mais ce qui montre très bien que la carte de visite n'est pas entièrement intelligible. Vous voyez le très grand danger. Et c'est peut-être le danger dominant de notre monde d'aujourd'hui. C'est que le devenir est devenu tellement important à cause de toutes les conquêtes techniques sur le devenir qu'on risque de ne plus vouloir faire la distinction entre l'être et le devenir. Et on ne voit que le devenir. Par le fait même, il n'y a plus de finalité. Il n'y a plus que des termes. La vie biologique, elle est tout le temps dans le devenir. Un devenir immanent. C'est là la très grosse différence entre le devenir vital, qui est la croissance, et le devenir purement physique. Le désir purement physique est extérieur, extrinsèque. Le devenir vital, biologique, est intrinsèque, immanent. Le vivant se meut. Il se devenir. Son devenir est immanent. Lui-même, il s'oriente pour que ce devenir intelligible. Mais il est toujours un devenir. Alors, il est beaucoup facilement trompeur. On croit que le devenir vital peut remplacer l'être par l'immanence du vivant. Or, l'immanence du vivant ne change pas la qualité du devenir et la distinction du devenir et de l'être. C'est à l'intérieur de la vie qu'il y a la distinction des deux. Parce que l'être peut être vivant. L'être peut être en devenir. Et je veux dire, la vie peut se réaliser en devenir et elle peut être substantielle. La vie qui est dans le devenir reste toujours accidentelle. Toujours. Alors, c'est plus séduisant parce que la qualité du devenir étant immanente, on croit que la fin, le terme, est fin. L'entelecheia devient facilement energeia, la fin immanente que je possède. On la considère très facilement comme ce qui me finalise l'être en acte.